Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je suis berbère. À l'origine, je suis berbère. Mais je suis devenu, disons, un peu arabe, beaucoup arabe par la culture.
Difficile d'évoquer l'histoire agitée de l'Algérie contemporaine sans parler de ce personnage qui aura été l'un des principaux acteurs du nationalisme qui va aboutir à l'indépendance au début de la décennie 60. Arrestation, enlèvement, condamnation, évasion, attentat, destitution, exil. Celui qui va devenir le premier président du jeune État aura manifestement tout connu, comme je vous invite à découvrir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi, dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs.
Cette nuit du 1er novembre 1954, les nationalistes algériens en exil au Caire sont passés à l'action. Et l'Algérie est secouée de part en part par une vague d'attentats. C'est ce qu'on va appeler l'opération de la Toussaint, qui a été initiée par les chefs de la rébellion basée au Caire. Ahmed Ben Bella.
Oui, alors notre parti, c'est le seul pays qui, disons, dont l'objectif était l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Mais un problème n'avait jamais été réglé, disons, d'une façon claire. C'est celui des moyens. Comment aller à l'indépendance? Est-ce par des négociations, finalement, qui se succèdent, par un cheminement, disons, pacifique? Mais au sein du parti, les choses étaient restées un peu en suspens.
Cette opération de la Toussaint va marquer le début de l'insurrection en Algérie. Elle va faire découvrir au monde le visage de celui que la presse française qualifie, je cite, du plus dangereux des agitateurs.
Nous avions 400 armes en 1954, ça ne va pas chercher loin, des statis. Cet armement n'a pas pu être distribué partout. Il a fallu donc sacrifier des régions. L'Oranie était totalement, purement et simplement sacrifiée, toute l'Oranie. Il fallait donc songer à tout de suite régler ce problème, et ce n'était pas facile, parce que nous n'avions qu'une source d'approvisionnement, c'était l'Égypte. Nous n'avons pas reçu un 635, ni de la Chine, ni de l'Union soviétique, ni d'aucun pays de l'Est, pas un 635. Nous n'avions rien, absolument rien. Étant donné le manque de matériel, nous avons privilégié une région. C'est les Aurès, en fixant un objectif précis, faire une action de guérilla, d'emblée une action de guérilla sur toute la région des Aurès. Ailleurs, des actions ponctuelles, puisque nous n'avions pas les moyens. Et préparer donc l'action de guérilla qui s'étendrait à toute l'Algérie.
Ahmed Ben Bella est le principal animateur militaire du mouvement. Il prend le titre de chef de l'armée de la libération nationale, ce qui en fait une cible. Mais au Caire, il est un peu chez lui. Il est dans un univers qu'il connaît, dont il comprend les aspects. La révolution égyptienne se réclame elle aussi de la lutte contre l'impérialisme, de l'appel des masses, de l'union étroite du peuple et de l'armée. Il jouit du soutien du raïs Gamal Abdel Nasser, qu'il aime bien. Il mène une vie semi-clandestine. C'est ce qui va faciliter la préparation du 1er novembre 1954. Ben Bella voyage sous les noms les plus divers. Messaoud Medziani, Abdelkader Mebtouche et beaucoup d'autres pseudos. En réalité, il est désormais une cible pour les autorités françaises. Son nom est maintenant synonyme de l'action la plus radicale. La vigilance de ses services ne vont pas lui permettre, malgré ses nombreuses identités, de participer au congrès historique du FLN qui fixe les mécanismes et les objectifs de la rébellion. Le parti se réunissait dans la vallée de la Soumam. Ahmed Ben Bella.
Que ce congrès s'est tenu dans une région qui était très, très contrôlée par l'armée française, dans la Soumam. Vous savez, la Soumam, c'est une partie de la Kabylie, où il y avait une concentration de troupes très, très importante. Personnellement, je me trouvais au Caire, pas simplement moi, Aït Ahmed, Rüder, qui fait partie aussi de la direction, n'est-ce pas, et Ahmed, Rüder, moi, nous nous trouvons à l'extérieur et nous allons à Tripoli parce qu'on nous dit, allez à Tripoli, on vous fera prendre en charge à partir de Tripoli. Mais ils ne sont pas venus, donc nous n'avons pas participé à ce congrès.
Mais il y a des raisons politiques à votre participation au congrès, c'est pas seulement des raisons logistiques.
Il se trouve que la guerre a été impitoyable, vous savez, les murs sont morts chez nous. Ils sont partis dès le début, vous savez. Abin vit en 56, ça fait 2 ans qu'on se bat en Algérie, et que une bonne partie, disons, de ceux qui constituent la direction de l'Algérie sont à l'extérieur. Aït Ahmed est à l'extérieur, et pas des moindres. Aït Ahmed, c'est un gros calibre. Khidr est un gros calibre, et moi, je suis un gros calibre. Bon, finalement, ce congrès se tient sans, disons, consistance. C'est surtout par des Kabyles et par quelques hommes qui sont pas loin des Kabyles, disons Alger, etc. Et que surtout, là, il y a une volonté, mais qui ne s'exprime pas clairement, de refondre la direction et d'éliminer certains éléments de ça, notamment moi. Et ça s'exprime aussi dans les textes.
Le lendemain de ces assises du FLN, Ahmed Ben Bella va déclarer ne se tenir pour lié avec ces décisions que dans la mesure où elles pouvaient être approuvées par les 9 chefs historiques de la Révolution, parmi lesquels Mohamed Boudiaf, Hossein Aït Ahmed, Rabah Bitta, Larbi Ben Mehdi, Mohamed Ben Youssef Kider, Belkacem Ben Hadj Hossein Krim, Mustapha Ben Boulaïd, Mourad Didouch et bien sûr Ahmed Ben Bella lui-même. Octobre 1956, un DC-3 de la Royal Air Maroc décolle de Rabat, direction Tunis. À son bord, les leaders nationalistes algériens en exil, Ahmed Ben Bella, Hossein Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf, Mohamed Kider et Mostafa Lacherev. Ils sont en chemin pour une rencontre intermaghrébine prévue à Tunis. La réunion doit regrouper les 2 chefs des États nouvellement indépendants, le roi du Maroc et le président tunisien, ainsi que la délégation extérieure du Front de Libération Nationale, le FLN. Les membres de la délégation algérienne sont arrivés à Rabat quelque temps plus tôt pour préparer cette rencontre. Le roi Mohamed V leur a d'ailleurs proposé d'effectuer ce voyage de Tunis avec lui dans son avion. Puis au dernier moment, le programme du monarque a changé. Ahmed Ben Bella.
L'enlèvement se fait dans un avion marocain, avec un équipage français, mais dans un avion marocain. Et cet avion devait nous mener donc à Tunis. Nous devions aller avec le sultan du Maroc dans son avion. Puis, tout d'un coup, on a changé d'idée, on nous a dit, vous n'allez pas dans l'avion de Mohamed V, parce qu'il y a son harem, etc. Vous irez dans un autre avion. Nous avions émis des réserves, je dois dire. Enfin, finalement, étant donné l'importance de l'événement, nous ne voulons pas quand même gâcher cette grande fête qui allait se dérouler à Tunis, de retrouvailles de toute l'Afrique du Nord, et nous voulions au contraire être là, puisque finalement c'était l'élément essentiel, l'Algérie, et les solutions qui devaient être dégagées en faveur de l'Algérie. Et donc cet avion a été intercepté par l'aviation qui se trouvait, l'aviation française à Alger, qui s'était mis en contact par radio avec cet avion pour lui demander d'atterrir à Oran. Et finalement, l'avion s'est posé à Palma de Majorque pour attendre des ordres et ensuite a repris la route vers la Tunisie et à hauteur d'Alger, il a bifurqué sur Alger. Et alors là, l'armée française était là avec ses chars, etc. nous a accueillis.
Comment vous avez réagi vous-même?
Très simplement, c'était un beau coup. Il faut être élégant, enfin, c'était un coup bien préparé, ça. Mais enfin, un mauvais coup, parce que politiquement, ça a été une catastrophe. Parce que ça a mis fin à un processus. De toute façon, peut-être qu'il fallait attendre le vrai partenaire, il n'est venu que par la suite, de Gaulle. Mais je dis, ça aurait pu se terminer en 56.
Revenons à ce 22 octobre 1956. Alors que l'avion de la compagnie marocaine qui transporte les leaders algériens est au-dessus de la Méditerranée, l'équipage dans le cockpit reçoit un curieux message. Il vient d'Alger. « Venez vous poser à Alger », intime-t-il. Le DC-3 répond. « Au nom de qui parlez-vous ? » ?»« Alger, au nom du gouvernement français. » Le DC-3 à nouveau. « Demandons précision. » « Alger, au nom du gouvernement français. » Ordre de Monsieur Lacoste, ministre de l'Algérie. L'équipage du DC-3. Nous appartenons à une compagnie étrangère. Ces ordres ne nous concernent pas. À ce moment-là, l'équipage qui a compris qu'il s'agit d'une tentative de détournement pour récupérer ses passagers choisit de ne plus répondre. Ce silence, il le rompt à 19h. Il demande à Alger l'autorisation de retourner au Maroc. Réponse de Maison-Blanche, l'aéroport d'Alger. Venez à Alger. Ordre gouvernement atterrir à Alger. Répétons, ordre donné, ordre donné. 19h30. Pour la seconde fois, le DC-3 sollicite l'autorisation de retourner au Maroc. Alors Alger répond, négatif pour le Maroc. Venez vous poser à Alger. Vous êtes couvert par le ministre. Le DC-3. Et nos familles qui sont au Maroc? Alger, nous nous en occupons immédiatement. Nous les mettrons en lieu sûr. L'équipage du DC-3. Et si les rebelles sont armés? Alger leur répond, assurez-vous-en. À nouveau le DC-3. Que ferons-nous s'ils se rendent compte que nous arrivons au-dessus d'Alger et s'ils mettent leurs armes dans le dos du pilote? Alger, la chasse décollera et vous pourrez ainsi arguer de la nécessité d'atterrir. Dans le DC-3, cet échange n'est connu que les membres de l'équipage. Les passagers ne se doutent de rien. La porte hermétiquement fermée n'a laissé passer aucun son. Dans la carlingue, on somnole. Soudain, l'hôtesse, Mademoiselle Lambert, sort de la cabine. Elle a un peu de mal à masquer son angoisse. Ben Bella, toujours en éveil, l'interroge sur le trajet de l'appareil. Évasive, elle répond, il se peut que nous prenions une route plus directe. Comment ça plus directe? Nous n'allons quand même pas survoler le territoire algérien. Non, mais nous pouvons prendre plus court. Au même moment, dans l'intimité de la cabine, on vient de capter le message en clair de l'état-major de l'armée de l'air au Mistral et au Dassault 315 qui ont décollé. Ordre de tirer sur moteur droit si avion cherche à fuir. Décidément, l'équipage est piégé. Il le sait. Presque en même temps, un autre appareil se pose à Alger. Celui de Robert Lacoste, à qui, en quelques phrases brèves, on compte toute l'affaire. Il n'était pas au courant de l'opération. « Formidable !» s'exclame Robert Lacoste. « Quelle histoire ! C'est une affaire du tonnerre de Dieu !» On signale au ministre qu'il est encore temps de donner un contre-ordre. D'un geste, le bouillant socialiste balaie la suggestion. « Cette affaire va me valoir beaucoup d'emmerdements. » Mais le chef de la rébellion se trouve au-dessus du territoire français. Il passe à portée de ma main. Nous sommes en guerre. Au point où en est l'affaire, mon devoir me commande de les arrêter. Je les arrête. L'équipage du DC-3 a pris sa décision. Cap sur Alger. La radio annonce, nous survolons Cherchel. Tout va bien à bord. Ils ne s'aperçoivent de rien. Des mesures de sécurité sont-elles prises au sol? Alger leur répond, tout est paré. En fait, depuis 15h30, des forces imposantes quadrillent l'aérodrome de Maison-Blanche. Des hommes armés jusqu'aux dents. 5 généraux dont Loriot sont sur place. Les Algériens regardent par les hublots, aperçoivent une incroyable densité de lumière. L'un d'eux interroge Mademoiselle Lambert. « Est-ce que c'est Tunis ?»« Oui, oui, oui. Nous nous y poserons dans un quart d'heure. » La double inscription clignote. « Attachez vos ceintures. » Le train d'atterrissage prend contact avec la piste. Mais la voix de l'hôtesse se veut toujours rassurante. Vous êtes prié de ne pas quitter vos sièges avant l'arrêt complet de l'appareil. En tout cas, en ce qui la concerne, elle a disparu dans la cabine. L'équipage a bloqué la porte de communication. Du commandant à l'hôtesse, tout saute par l'ouverture de secours. La pauvre Mademoiselle Lambert se foule la cheville. Dans l'appareil, voici que les lumières s'éteignent d'un seul coup. Dehors s'allument les projecteurs aveuglants. On aperçoit des soldats casqués qui foncent sur le DC-3. Mus par un même réflexe, dans l'instant, tous les Algériens sont debout. La porte bousculée, le colonel Andrés, chef de la sécurité de l'air qui surgit, mitraillette au poing avec ses hommes. « Haut les mains !» Ben Bella plonge la main dans la poche du siège où il a placé son revolver. Ses camarades lui crient de laisser son arme où elle est, de ne pas leur donner ce beau prétexte. Les membres de l'équipage vont être conduits à la villa Les Oliviers. À leur grande surprise, ils y retrouveront leurs femmes et leurs enfants littéralement enlevés de chez eux au Maroc en fin d'après-midi, sans ménagement, jetés dans un avion. Pendant que les saints roulent vers Alger, menottent aux mains, dans une voiture cellulaire escortée de tanks et de motards, la nouvelle court sur les ondes et les fils du téléphone. À Tunis, Mohamed V est l'un des premiers avertis. Furieux à la fois et désespéré, il appelle aussitôt à l'Élysée René Coty. Sa voix tremble de colère. Les Algériens étaient placés sous ma protection. Mon hospitalité a été violée. Vous connaissez l'âme musulmane. C'est une question d'honneur. Je suis prêt à donner mes fils en otage.
À Tunis, rien n'avait été épargné pour donner à cette visite tout l'éclat possible. Et ce, en dépit des mises en garde officielles du gouvernement français contre cette attitude pour le moins inamicale. Le Bey et M. Bourguiba étaient venus accueillir le sultan à sa descente d'avion, et c'est au milieu d'une foule enthousiaste que le royal visiteur devait recevoir le premier salut de la Tunisie. Cette visite, prévue pour plus d'une semaine et au cours de laquelle devaient s'insérer des conversations auxquelles déjà étaient convoqués les représentants des hors-la-loi algériens, devait cependant prendre une tournure totalement différente. Un coup de théâtre venait de se produire pendant le voyage. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chef de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers.
À la même heure, le président Guy Mollet conduit au cercle interallié le dîner d'adieu offert au général américain Grunther. Alain Savary et Louis Jox, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui venaient d'apprendre que l'avion avait atterri, se rendent aussitôt auprès du président du conseil. Guy Mollet, prévenu, quitte alors sa table. Il n'était pas au courant de cette opération. Les militaires l'ont totalement tenu à l'écart.
Ce qui s'est produit, c'est que l'affaire de l'avion a été faite par l'armée, par un groupe de l'armée, pas par toute l'armée.
Cet événement intervient dans une situation bien chaotique en France. La faiblesse de la 4e République y est pour beaucoup. Déstabilisée en permanence par le lobby colonial, elle a abandonné peu à peu le pouvoir à l'armée. Du coup, lorsque le SDEC, avant du déplacement des représentants du FLN par l'avion de la compagnie royale, les services secrets ne veulent pas laisser passer cette occasion. Le représentant du gouvernement en Algérie, Robert Lacoste, n'apprend le projet qu'une fois la décision arrêtée. Quant au président du conseil, Guy Mollet, il n'apprend l'opération qu'une fois les chefs du FLN sous les verrous. Guy Mollet, prévenu, furieux, quitte alors sa table. En s'adressant à Marx Lejeune, le secrétaire d'État farouche partisan de l'Algérie française, qui a participé à cette opération, il lui dit « Tu t'expliqueras avec le président de la République ». Les deux hommes filent à l'Élysée où Alain Savary, le secrétaire d'État aux affaires marocaines et tunisiennes, puis Christian Pinault, le ministre des Affaires étrangères, les ont précédés. Ils trouvent René Coty en robe de chambre et d'une humeur massacrante. Les autres ministres surgissent. Pour la plupart, ils ne partagent pas le pessimisme de René Coty. Certains ont même l'air ravis. Le président de la République douche leur enthousiasme en s'écriant qu'il faut libérer les prisonniers. Christian Pinault approuve. Bourgès Monory et Marx Lejeune, furieux, répondent qu'il n'en est pas question. Rappelé à son impuissance, Coty soupire. La décision finale appartient à Monsieur le Président du Conseil. Tout se tourne vers Guy Mollet, toujours tendu et pâle. Un long silence. Après quoi, Guy Mollet se prononce. « Je regrette le détournement de l'avion de Ben Bella. C'est un acte inconsidéré commis sans l'assentiment du gouvernement. » Mais je ne crois pas que, dans l'état actuel de l'opinion publique et parlementaire, nous puissions nous permettre de relâcher les prisonniers. Si nous agissions ainsi, le gouvernement serait renversé dès demain. Le mal est fait.
Ici Alger RTS. Le dépouillement des documents trouvés dans les bagages des chefs FLN arrêtés avant-hier continue et les prisonniers sont invités à donner des précisions sur certains renseignements qui s'y trouvent. Il semble que l'essentiel de cette précieuse documentation soit maintenant connu et qu'on attache une attention plus particulière au carnet d'adresse de Ben Bella. On conçoit que les milieux officiels soient sur ce point extrêmement discrets.
Quoi qu'il en soit, Ahmed Ben Bella est désormais dans les mailles du filet. L'armée française le tient. Passé le premier moment d'abattement, le nationaliste ombrageux qui vient d'être transféré à la prison de la Santé à Paris va reprendre confiance. Mais sous les verrous, comment va-t-il poursuivre sa lutte? Comment va-t-il parvenir à rester dans le jeu malgré l'hostilité des militaires qui ont décidé de prendre langue avec les nationalistes locaux? Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour en parler dans cette série d'archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella qui est loin d'avoir dit son dernier mot. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal pour la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Ben Bella. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
premier avion piraté, c'était le mien. Je l'ai dit à la télévision, on ne veut plus me parler de cela. Après, ça fait des petits, hein. Oui, mais le premier, ça a été celui-là.
En effet, avec ce rapt effectué par les services de renseignement et l'action française sur l'avion qui le conduisait, lui et les autres leaders du nationalisme algérien de l'extérieur vers Tunis, il est l'une des premières victimes des détournements d'avion. Alors qu'il quitte Rabat pour Tunis le 22 octobre 1956, son avion est intercepté et détourné vers l'Algérie où, avec ses quatre compagnons, ils sont faits prisonniers. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Ben Bella.
Un coup de théâtre venait de se produire pendant le voyage. L'avion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détourné. Les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chef de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers.
26 octobre 1956. Arrestation de Ben Bella et des délégués du FLN. Bien joué. Ce fut le premier mot, même des Français qui réfléchissent. Pour une fois, les dindons de la farce, c'étaient les autres.
5 jours après leur arrestation, Ahmed Ben Bella est transféré à la prison de la Santé, à Paris.
À Alger même, les services officiels, en l'absence du ministre résident et compte tenu des délibérations du Conseil des ministres et des débats de l'Assemblée nationale cet après-midi, observent une grande discrétion. Il est évident que l'affaire dépasse maintenant le plan algérien pour se situer sur le plan national. Dans les milieux européens, ce coup de filet spectaculaire a provoqué un regain d'optimisme et on se félicite de l'esprit de décision de ceux qui ont mené à bien cette délicate affaire qui ne manque pas de détails pittoresques. C'est ainsi que ce matin, Ben Bella, extrait du local de la DST où il avait passé la nuit, s'est plaint de n'avoir pu dormir parce qu'un policier venait toutes les demi-heures lui demander « Comment allez-vous, monsieur le président du Conseil ?» Monsieur Ben Bella, qui ne comprend pas ce genre de plaisanterie, en fit reproche aux policiers en leur disant « Vous devriez avoir honte d'être français », à quoi il lui fut répondu qu'il était mauvais juge.
Ahmed Ben Bella.
Lorsque nous avons été arrêtés, je me rappelle, à un moment donné, on me dit « Quelqu'un veut vous voir ». J'ai dit « Oui, je veux bien, qui ?» Puis je me trouve en face d'une dizaine d'officiers. Et on me dit « Monsieur est le chef de l'armée française actuellement en Algérie ». Et bon, je n'ai pas voulu parler. Sincèrement, ça ne m'intéressait pas. J'ai dit « Je n'ai rien à dire à ces messieurs, ils n'ont rien à me dire ». Et puis, l'ordre était très fin, ce général en chef. Il me dit, écoutez, je vais vous dire, je suis un militaire, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas venu pour connaître, pour essayer de faire un travail policier. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous voulez, ce que nous voulons. Mais moi, je lui ai dit, voilà, écoutez, ce que nous voulons, nous l'avons dit à vos négociateurs qui sont venus nous voir depuis 6 mois. Nous négocions depuis 6 mois et nous sommes arrivés à un accord. Parce qu'ils l'ont trouvé le papier. Les hommes dans nos bagages, ils l'ont lu. J'ai dit, nous sommes arrivés à un accord. Nous pensons que cet accord peut mettre fin à ce drame. Ça nous permettrait de récupérer ce qui nous tient à cœur, notre dignité, notre droit à être libre, à être des hommes libres, à nos autodéterminer, à faire nos choix, le choix de ce que nous voulons être. Et nous pensons que cela peut conserver l'essentiel des intérêts de la France. Et il me dit tout de suite, nous ne voulons pas du tout avaliser l'accord fait par nos politiciens. Ils nous ont trahis en Indochine. Nous ne sommes pas du tout décidés à tremper notre foi ici, etc., etc. Je dis, écoutez, c'est votre affaire. Nous avons discuté avec un gouvernement dûment mandaté. Et nous voulons nous en tenir là. Ce que vous venez de faire, nous pensons que ce n'est pas honnête parce que vous négociez avec nous et puis finalement nous sommes arrêtés. Alors que je devais entrer en Algérie pour voir les miens et pour préparer les conditions de l'application de cet accord, etc. Nous ne voulons absolument pas avoir avalisé cela. Maintenant, nous serions heureux de décider avec vous, de voir ce que nous pourrons faire. Peut-être que vous pouvez aider à dédramatiser ce problème et rechercher des solutions. Qui soit convenable aussi pour nous. Je dis non, pas absolument pas. Vous ne pouvez pas compter sur moi pour cela. Je n'ai pas discuté avec un chef d'une armée, d'un État qui, lui, négocie avec nous. C'est au service. Je dis non, nous ne sommes pas du tout au service de cet État. Le cas échéant, nous prendre nos responsabilités. Je dis, ça, c'est votre affaire. Et un colonel s'est énervé parce que le général m'avait dit, écoutez, monsieur Mbella, c'est terminé. Ben Bella, c'est terminé, nous venons de l'arrêter, c'est terminé. Là, j'ai dit, il y a 12 millions de Ben Bella. C'est terminé aussi, Ben Bella. Hein? Il y a 12 millions, ou 10 millions, ou 8 millions de Ben Bella.
L'armée française a décidé d'entamer les négociations avec les nationalistes locaux. Il faut écarter Ahmed Ben Bella et ses amis. Il va être transféré de prison en prison. D'abord l'île d'Aix, où il va séjourner de 1959 à 61. Puis Turcan et l'infirmerie de Garches.
C'est vers 22h30 hier que l'on a compris à Turcan, un petit village avec une église et un bistrot sans téléphone, que ce transfert était imminent. Sous une pluie fine et glaciale, le dispositif avait été mis en place. 9 ambulances à l'intérieur de l'enceinte du château, de façon à former 2 convois, les 2 compagnies de CRS qui se relayaient habituellement étant en place, l'une à l'intérieur, l'autre bouclant les issues du village. Depuis 19h, dans le hall du château, le préfet du Maine-et-Loire, M. Vivant, le directeur départemental des renseignements généraux, M. Couvy, M. Schmelk, directeur de l'administration pénitentiaire, conféraient, car on savait, par une avocate, Maître Michel Bouvillard, que les détenus Ben Bella, Itamed et Kider refusaient de se laisser transporter dans une clinique.
En Algérie, la situation dégénère en ces débuts d'année 1958. L'armée peine à calmer la montée des nationalismes. Pour elle, pas question de penser à l'indépendance.
Voici pour la première fois un reportage tourné de l'autre côté. Ce reportage, venu d'une source étrangère, a saisi une unité de rebelles algériens dans un camp d'entraînement dont la situation se place à l'est et en dehors de la frontière, c'est-à-dire en territoire tunisien. Harangué avant son départ par un commissaire politique, un détachement de 70 hommes s'est mis en route pour tenter de rejoindre la région de Constantine. Début de route sans histoire qui mène le soir à un bivouac de fortune. Chacun s'endormira, armes suspendues, et jetés en vrac, ces tubes de fer bourrés d'explosifs qui s'ajustent l'un à l'autre et se glissent pour ouvrir un passage sous le réseau de barbelés qui garde la frontière. Réveil et départ à l'aube. Et le convoi continue sa marche vers son premier but, le barrage électrifié qu'il s'agira de passer en pleine nuit si l'on réussit la coupure. Peut-on voir là le fait exceptionnel? Complicité ou impuissance, le moins qu'on puisse dire, c'est que les faits ne concordent pas avec certaines déclarations tunisiennes. Et c'est là un aspect de l'affaire d'Algérie.
Les négociations entamées par l'armée française et les autorités avec les différentes factions nationalistes piétinent. Depuis la Toussaint 1954, les départements d'Algérie sont en proie à de graves événements que les gouvernements successifs de la 4e République n'arrivent pas à stopper.
Amour sacré de la patrie, conduit soutien son droit tranchant, liberté, liberté.
Le message que le monde attendait sort du plus profond de l'âme française. Il vient du coin le plus menacé de la France. Il vient d'Alger.
Face à face, les nationalistes algériens qui se battent pour l'indépendance de leur pays et les Européens d'Algérie qui ne peuvent pas envisager qu'un jour les départements de ces territoires ne soient plus français. Pour eux aussi, l'Algérie est la terre de leurs ancêtres, arrivés un siècle plus tôt. Français, espagnols, italiens, ressortissants de l'ensemble du bassin méditerranéen, ont fait de cette terre la leur. En 1954, la phrase tant reprochée à François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, et à son président du Conseil, Pierre Mendès France, est partagée par la grande majorité de l'opinion française. L'Algérie, c'est la France. Dans un premier temps, les réservistes de l'armée sont rappelés et partent épauler les troupes françaises présentes, dont une grande partie vient de quitter, vaincue, l'Indochine. Puis à partir de 1955, la situation nécessite l'envoi des appelés du contingent. En 1957, près de 500 000 soldats français sont chargés de maintenir l'ordre, car la population musulmane, attentiste au départ mais traitée en citoyens de seconde zone, est de plus en plus sensible aux idées indépendantistes. Les pouvoirs spéciaux donnés aux militaires afin de combattre la guérilla en ville et en campagne se traduiront par certains résultats sur le terrain, mais au prix de lourdes dérives.
Ce sont 2 prises importantes qu'ont faites à Alger en la personne de Cherdi Ramida et surtout Ben Mridi Darbi, les parachutistes du général Massu, agissant en collaboration avec la DST. Les 2 hommes qui ont été conduits sous bonne escorte au PC du colonel Bijard sont en effet des membres influents du FLN. Ben Mridi Darbi notamment, qui appartient au célèbre comité des 5. Leur arrestation devait entraîner celle de Aïssa Idir, si bien que maintenant les dirigeants du FLN sont aux mains des forces de l'ordre.
Les Européens d'Algérie soupçonnent Paris de vouloir les abandonner, d'autant plus que les gouvernements se succèdent et s'affaiblissent mutuellement. À l'occasion d'une énième crise gouvernementale, le 13 mai 1958, la foule algéroise manifeste et se révolte pour réclamer un gouvernement fort. Elle acclame les soldats et leurs officiers qui lui paraissent comme les seuls remparts contre l'abandon.
Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Challes, Jouot et Zeller.
Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Nous assurons les musulmans que la France ne les abandonnera jamais et qu'ils peuvent être certains d'avoir dans notre belle Algérie fraternelle la place de choix qu'ils méritent.
13 mai 1958, un comité de vigilance appelle à manifester contre le FLN à Alger. Un comité de salut public est créé, à la tête duquel se trouve le général Massu.
Alger, 14h hier mardi. Conformément à l'ordre de grève lancé par le comité de vigilance, la plupart des magasins d'Alger ont fermé leurs portes, les grilles et les rideaux de fer sont tirés, la ville a pris son aspect des jours fériés. Pourtant, 2 heures plus tôt, des voitures munies de haut-parleurs ont circulé, invitant la population à manifester dans le calme. C'est à 17h que depuis le plateau des Glières, les manifestants par le boulevard Laferrière se dirigent vers le monument aux morts. Ils seront une 30 000. Auparavant, des groupes s'étaient signalés dans la ville, le premier en mettant à sac le centre culturel américain, le second en attaquant le journal d'Alger considéré comme trop libéral. Parmi les manifestants, quelques Français musulmans qui seront parfois chaleureusement applaudis. Mais bien vite, l'ordre et la discipline vont cesser, cette foule surexcitée va bientôt se lancer à l'assaut du gouvernement général du siège du ministère de l'Algérie que défendent les CRS. Les CRS dont les éléments avancés se replient actuellement sur le gouvernement général sous la grêle de pierre qui s'abat sur eux.
C'est l'impasse. Le général Massu lance un appel au général de Gaulle le 14 mai 1958. L'insurrection prend de l'ampleur et risque de dégénérer en guerre civile. Le 15, le général se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 29 mai, le président de la République, René Coty, fait appel au plus illustre des Français comme il l'appelle. L'Assemblée nationale, en majorité de gauche et opposée au général, vote alors la confiance à Pierre Flimelin, leader de la droite modérée qui devient ainsi président du Conseil sans pouvoir contrôler l'appareil d'État qui échappe alors complètement au pouvoir civil. Le président de la République, dans un message au Parlement, menace à ce moment de démissionner sur le champ, ce qui aurait certainement provoqué un coup d'État militaire. Charles de Gaulle accepte de former un gouvernement qui est investi par l'Assemblée nationale le 1er juin 1958. Pierre Mendès France, parmi les plus virulents opposants, déclare au sujet du vote d'investiture, je cite, « C'est parce que le Parlement s'est couché qu'il n'y a pas eu de coup d'État ». Le général de Gaulle devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4e République. Les députés lui accordent la possibilité de gouverner par ordonnance pour une durée de 6 mois et l'autorisent à mener à bien la réforme constitutionnelle du pays.
Jeudi 8 janvier, la France change de République et de président. Charles de Gaulle succède à René Coty.
Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Il me faut le concours de ceux qui servent la République. Ce concours, cet appui, ce soutien, ils me furent naguère accordés dans l'angoisse du péril national. Je les demande à présent où à l'horizon paraît la lumière de nos grandes espérances. Vive la communauté, vive la République, vive la France.
Si l'Algérie est au cœur des remous que connaît la France en cette fin de la décennie 50, de l'instabilité politique qui y règne, en sous-main, les politiques et les militaires poursuivent les négociations avec les différents mouvements nationalistes qui se battent sur le terrain. Officiellement, Ben Bella et ses camarades arrêtés le 22 octobre 1956 ont été écartés de ses pourparlers. Pourtant, dans sa prison, on vient de plus en plus le consulter, le voir. Ahmed Ben Bella.
Dans la négociation de Vian, oui, nous avons été tenus à l'écart, totalement à l'écart. Et puis, voilà qu'un jour, nous avons été contactés par des éléments du GPRA, par notamment Bentobal et d'autres, je crois que...
Grimm est venu,
etc. Et nous sommes rendus compte à ce moment-là que les premiers accords, le premier canevas, c'est inacceptable. Et nous avons eu des discussions très chaudes avec nos amis, je peux le dire maintenant, certains de ceux qui sont venus, Bentobal notamment, nous avait dit Ahmed, mais la guerre est perdue pour nous. Tu es là, tu. Et je me rappelle, j'avais dit, c'est toi qui es perdu, c'est pas là. M'a dit, notre peuple est là, il ne veut plus. Je lui ai dit, c'est toi qui es là. C'est toi qui n'es plus à même d'endosser notre... Tu es perdu pour nous. Si tu tiens ce langage, c'est que tu es perdu. C'est que c'est toi le mal, ce n'est pas notre peuple. En tout cas, je ne signerai jamais un pareil document.
Comment le prisonnier de l'infirmerie de Garches, qui s'oppose aussi farouchement aux accords, au contenu des pourparlers, retrouvera-t-il sa place à la table des négociations ? Quelle chance a-t-il, lui considéré comme un radical, d'être libéré par le pouvoir colonial ? Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour en parler dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique que nous consacrons à Ahmed Ben Bella.
بكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطر تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور وقربها متاملو لكن الحب يا مغرور صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليم مشغول البال جافك النوم ذات حياتك بالأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع وجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة الانظار وانسى في حبها مقهور
بابينو
وقربها متاملو
بابينو
لكن الحب يا مغرور
بابينو
صعيب وانت ما تقدر له اضحك واللعب بالمندولينو وسلي بابينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بابينو اليوم راك مهني على المندولينة تغني انت بشعرك مثل الذهب
بامينو بامينو
روح يا صبي ما زلت صغير
بامينو بامينو
مع الصبيان مشيت العاب
بامينو بامينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما تقدر